Avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Si vous êtes chrétien cet après-midi, qu'est-ce qui serait le plus susceptible de vous faire abandonner la foi? Qu'est-ce que c'est qui aurait plus que toute autre chose le potentiel de vous faire renoncer au christianisme? Personnellement, moi, j'ai un peu peur de la menace physique, de la persécution physique. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur, personnellement. Est-ce que moi, je resterais loyal à Jésus sous la torture, par exemple, comme un autre Alexandre qui a vécu il y a bien longtemps, en l'an 177, et qui a été martyrisé ici même à Lyon, avec la fameuse Blandine? Est-ce que moi, j'arriverais, comme cet autre Alexandre, à demeurer loyal à Jésus sous la torture? Voici ce qu'on peut lire dans une lettre adressée à cette époque par les chrétiens de Lyon aux chrétiens d'Asie. Voici ce qu'ils écrivent. Alexandre passa par tous les instruments de torture inventés pour l'amphithéâtre et il soutint un très rude combat. À la fin, il fut lui aussi mis à mort. Alexandre ne fit entendre ni le moindre gémissement, ni même le moindre murmure, mais dans son cœur, il s'entretenait avec Dieu. Est-ce que l'Alexandre du XXIe siècle ferait pareil? Je l'espère par la grâce de Dieu, mais je ne sais pas. Mais vous, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce qui était le plus susceptible de vous faire abandonner la foi? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? La réalité, c'est que la persécution physique dans l'histoire a plutôt servi à fortifier la foi des chrétiens et à consolider l'Église plutôt qu'autre chose. Voici ce qu'a écrit un père de l'Église au début du IIIe siècle. Il dit, cette phrase qui est devenue fameuse, « Le sang des martyrs est semence de chrétiens ». Et d'ailleurs, comme on va le voir aujourd'hui, pour l'apôtre Paul en tout cas, le danger vient effectivement d'ailleurs. Il ne vient pas de la persécution physique, il ne vient pas de la menace de torture et de ces choses semblables. Rappelez-vous qu'au début de sa lettre à Timothée, Paul a mentionné deux personnes, en particulier, il les a mentionnées par leur nom, deux personnes qui ont, je cite, « fait naufrage en ce qui concerne la foi ». Et parmi ces deux personnes, il y avait, figurez-vous, un autre Alexandre, encore un. Décidément, les Alexandres sont très connus. Et quand on a étudié ce texte, au premier chapitre, hein, on a mentionné le fait que Paul appelait ses lecteurs à une grande vigilance, non pas vis-à-vis de l'opposition extérieure, l'opposition physique, la persécution, mais plutôt vis-à-vis de notre propre laxisme en tant que chrétien dans les domaines de la doctrine et de la conduite. Ce qu'on croit et ce qu'on fait, voilà d'où vient le danger pour Paul. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je cite, « Prenez donc garde, frères, il s'adresse à des chrétiens, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Il est là le vrai danger. En ce qui concerne notre foi, le danger vient de l'hérésie plus que de la persécution, vous voyez. En tout cas, c'est l'avis de Paul. Et ce n'est donc pas étonnant si tout au long de ces deux lettres à Timothée, d'accord, il en a écrit deux qui en tout cas sont dans la Bible, au cours de ces deux lettres, Paul va insister sur l'importance de maintenir ce qu'il appelle la bonne doctrine, de rester attaché aux Écritures, bref, de garder le bon dépôt. Ça, c'est l'expression que Paul utilise pour parler du fait qu'il faut protéger cette bonne doctrine, parce qu'il est là le danger. Le danger vient plus de l'hérésie que de la persécution physique. Alors, dans le texte qu'on va étudier maintenant, Paul va en rajouter une couche. Et son but, ici, on va le voir, c'est d'augmenter notre vigilance à nous aujourd'hui vis-à-vis des doctrines et des philosophies, notamment des philosophies religieuses qui circulent aujourd'hui. Dieu veut que nous sachions reconnaître les tactiques de notre adversaire, que la Bible appelle le diable. Parce que l'objet principal de ces attaques, comme on va le voir, c'est le cœur même de la foi chrétienne, à savoir le message et la portée de l'Évangile. C'est à cela que notre adversaire va s'attaquer par diverses tactiques. On va les voir dans quelques instants, mais avant d'aller plus loin, lisons le texte. 1 Timothée, premier épître de Paul à Timothée, chapitre 4, les versets 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Eh bien, prions, justement. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui a tant de choses à nous apprendre, et nous te prions maintenant de bien vouloir sanctifier ces moments et les utiliser pour notre instruction dans la foi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Un passage pas facile, pas limpide, pas évident à comprendre. En tout cas, à la fin du chapitre 3, si vous étiez là il y a 15 jours, à la fin du chapitre 3, Paul vient de dire que la venue et l'œuvre de Jésus dans l'histoire a inauguré une ère nouvelle. Une ère où la vérité en ce qui concerne la relation de Dieu avec les hommes a été pleinement manifestée, non seulement à travers les prophètes, mais elle a été manifestée à travers le Fils de Dieu, qui est venu en personne, qui est venu, qui a vu et qui a vaincu, si vous voulez. C'est pour résumer le message de Paul. Dieu s'est fait homme, il a offert un parfait sacrifice en sa propre personne, en la personne de Jésus-Christ, pour expier les fautes de ceux qui se confient en lui. Il est ressuscité en vainqueur sur le mal et sur la mort. Il a pris place sur un trône suprême au-dessus du monde entier. Et maintenant, la repentance en vue du pardon des péchés est prêchée au nom de Jésus-Christ au monde entier. Ça, c'est ce que Paul a voulu nous faire comprendre à la fin du chapitre 3. Et depuis 2000 ans environ pour nous aujourd'hui, le message est clair, limpide, notoire, explicite, objectif et fiable. Jésus dit, depuis environ 2000 ans, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et d'après la Bible, le prochain événement à attendre, le prochain événement marquant en tout cas, à attendre de l'histoire des hommes, c'est le retour de ce Seigneur qui règne, Jésus-Christ. Son retour dans le but de juger les vivants et les morts et pour inaugurer une nouvelle création où les croyants auront une place auprès de Dieu, mais dont les impénitents seront écartés pour l'éternité. Et c'est pour cette raison, tout ça pour dire quoi ? Que c'est pour cette raison que la Bible appelle la période de l'histoire dans laquelle nous vivons aujourd'hui, depuis la venue, la résurrection et l'ascension de Jésus, la Bible appelle cette période dans laquelle nous vivons les derniers temps. Les derniers temps. Vous avez remarqué l'utilisation de cette expression chez Paul au premier verset. Et Paul, dans ce passage, nous explique que le Saint-Esprit a révélé des informations à lui, notamment, c'était son rôle en tant qu'apôtre, de transmettre des révélations de la part de Dieu à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a révélé des informations concernant cette période de l'histoire dans laquelle nous vivons, concernant, dit-il, les derniers temps, notamment que des chrétiens vont abandonner la foi parce qu'ils vont croire à des mensonges. Ils vont abandonner la foi parce qu'ils vont croire à des mensonges. Le Saint-Esprit ne dit pas expressément que certains vont abandonner la foi parce qu'ils seront persécutés physiquement, mais le Saint-Esprit dit expressément, et je cite Paul, hein, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a des doctrines de démons, des informations fausses, des mensonges. C'est intéressant que Paul nous parle de ça juste après avoir parlé du caractère notoire de la vérité et de la victoire complète acquise par Jésus à travers sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension. Par rapport sur ce sujet, je vous renvoie à la prédication d'il y a 2 semaines. Paul est en train d'identifier pour nous ici quelle est l'ultime tactique du diable pour s'opposer au témoignage de l'Église et au déploiement de l'autorité bienveillante de Jésus dans nos vies et dans le monde. Il est en train d'identifier quelle est l'ultime tactique du diable pour s'opposer à cela. Et cette tactique consiste en une guerre de communication. Une guerre de communication. On a un parfait exemple de ce type de guerre de communication. Non pas que dans ce cas ce soit diabolique, c'est une illustration, hein, entendez-moi bien comme il faut. Mais on a un exemple en tout cas de ce type de guerre de communication avec ce qui s'est passé ces dernières semaines en Libye. On a en Libye un chef politique qui est en train de mesurer son impuissance face à aux forces de la coalition. D'accord ? Si vous avez suivi les informations ces dernières semaines. Et il sait que tous ses efforts militaires sont en fin de compte voués à l'échec devant ce déploiement de forces que la coalition est capable de déployer, vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des discours à la radio, à la télé, il saisit les médias, d'accord ? Et dans ses discours, il va affirmer qu'il est en réalité en position de force, qu'il maîtrise la situation, que le peuple est avec lui, que les forces de la coalition prennent d'ailleurs des civils pour cible, et puis même qu'ils ont réussi à abattre un avion français. Vous voyez ce que c'est que la guerre de communication ? Sans entrer dans le détail par rapport à ce conflit en Libye, en tout cas, on sait bien, je pense, tous, quel poids la propagande peut avoir dans un conflit, non ? Et combien il est facile d'y avoir recours lorsqu'on est en train de perdre la bataille. On mesure son impuissance, on a recours à la communication, à la propagande, n'est-ce pas ? Le diable fait la même chose. Le diable fait la même chose. La Bible dit que Jésus, je cite, a dépouillé les principautés et les pouvoirs, c'est-à-dire les forces du mal, et il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. D'accord ? Il les a dépouillés et il a triomphé d'eux. C'est-à-dire que par sa mort et sa résurrection, Jésus a scellé la défaite du diable. Il a scellé, il a garanti, rien ni personne ne peut plus rien y changer. Jésus a scellé la défaite du diable. Le diable a été mis en cage, pour ainsi dire, et dans sa cage, il attend de subir la peine éternelle qui lui est destinée par Dieu. Mais comme un chien en cage, ça ne l'empêche pas d'aboyer et de proférer des mensonges. Jésus a même dit du diable qu'il était le père du mensonge, vous vous rappelez, dans l'évangile de Jean. Et c'est pour cette raison que Paul, ici, dans ce texte, poussé par l'Esprit, identifie cette guerre de l'information comme étant la principale tactique du diable aujourd'hui, comme étant le principal enjeu de la période de l'histoire dans laquelle nous vivons. C'est une guerre d'information, une guerre de communication. Et de ce premier point, on peut tirer au moins une application toute simple et évidente, c'est qu'il faut éprouver toute information à la lumière de ce qui est vraiment fiable. Et qu'est-ce qui est vraiment fiable ? Sinon, la Bible, la parole de Dieu. Peut-être que ce soir, vous n'êtes pas convaincu de la fiabilité de la Bible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler avec moi après le culte ou un autre jour, ou en parler avec un autre chrétien, aujourd'hui ou un autre jour. J'ai notamment parlé de ce sujet également il y a 15 jours dans ma dernière prédication, au sujet de la fiabilité de la Bible. En tout cas, il est intéressant de remarquer que nous vivons actuellement, aujourd'hui, n'est-ce pas, à l'âge de l'information par excellence. C'est pas vrai ? Avec Jonah, on discute régulièrement de ce sujet, du sujet de la place qu'occupent les médias et la technologie dans nos vies aujourd'hui. Combien d'écrans possédez-vous ? Télé, ordinateur, téléphone portable, iPod, iPad et tout le reste. Tous ces moyens de communication, ce sont des fenêtres ouvertes, n'est-ce pas, sur des informations. Tous ces moyens de communication peuvent aussi bien être à la disposition des chrétiens et au service de l'Évangile qu'à la disposition des esprits séducteurs comme de Paul et au service de doctrines de démons. Comment faire la différence ? En éprouvant toute chose à la lumière de la Bible. Vigilance donc. Mais quels sont donc ces mensonges si dangereux que Paul les appelle des doctrines de démons ? C'est notre deuxième point. Et bien Paul, après nous avoir mis en garde contre cette tactique du diable qui consiste à nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, Paul maintenant va développer son propos en expliquant que ces mensonges qui peuvent faire tomber les chrétiens au point qu'ils abandonnent la foi, ces mensonges proviennent notamment, tenez-vous bien, de gens qui ont une pratique religieuse hypocrite. Il s'agit de gens qui, en apparence, semblent très pieux. D'accord ? Ils se plient à toutes sortes de contraintes. Ils sont très disciplinés. Mais Paul identifie cette pratique religieuse à de l'hypocrisie. Il dit « par l'hypocrisie de faux discoureurs ». Parce qu'en fait, ces gens cherchent à dissimuler l'état affreux de leur cœur et leur conduite immorale. Ils ont neutralisé leur propre conscience, d'accord ? Et ils cherchent à rendre Dieu propice par un culte extérieur de fabrication essentiellement humaine. Calvin le dit beaucoup mieux que moi, peut-être que j'aurais dû commencer par là. Voici ce qu'il dit. C'est un remède inutile par lequel les hypocrites adoucissent leur douleur, ou plutôt un emplâtre par lequel ils cachent les plaies de leur mauvaise conscience sans aucun profit et pour leur grand malheur et leur ruine. Vous savez, la Bible est impitoyable avec la religiosité. La Bible est impitoyable avec la religiosité. Je vous passe pour aujourd'hui, en tout cas, le genre de langage qui est tantôt employé dans la Bible pour désigner et pour dénoncer les efforts des hommes qui cherchent à dissimuler leurs péchés derrière toutes sortes d'artifices religieux ou de disciplines soi-disant spirituelles. Je vous passe ce genre de langage qu'emploie la Bible qui est parfois très choquant. Pourtant, c'est dans la Bible. Paul dit, en tout cas ici, que les adeptes de cette religiosité, d'accord, les faux discoureurs dont il est question au deuxième verset, il dit qu'ils sont marqués au fer rouge dans leur propre conscience. C'est l'expression qu'il emploie ici. C'est comme si vous aviez une énorme cicatrice sur le visage, d'accord, et que vous essayiez tant bien que mal de la dissimuler derrière du maquillage ou une écharpe, par exemple. Dans un certain sens, nous portons tous ce genre de cicatrice dans notre conscience. C'est une cicatrice spirituelle due à nos péchés. Une cicatrice spirituelle que Dieu peut voir et que Dieu peut guérir parfaitement. Par humilité, le croyant va confesser cette cicatrice, hein, en quelque sorte, il va la confesser à Dieu et il va recevoir sa guérison, la guérison que Dieu lui offre. Tandis que par orgueil, le légaliste, lui, celui qui est religieux, il va chercher par tous les moyens à dissimuler cette cicatrice, même à Dieu. Comme le dit l'apôtre Jean dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, « Quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. » Ça, c'est l'attitude des gens qui sont religieux et hypocrites. Ils cherchent à dissimuler, à cacher cette cicatrice spirituelle, même à Dieu, plutôt que de la confesser, de la reconnaître et de recevoir par la foi en Jésus la guérison de cette tare spirituelle. Paul dénonce ce genre de religiosité avec un langage très fort, hein. Esprit séducteur, doctrine de démons, hypocrisie, faux discoureurs. Et pourtant, ce que ces gens font, et on y vient au troisième verset, ce que ces gens font, ça sent pas si grave. Ça sent pas si grave, vous avez remarqué, c'est un peu étrange le décalage qu'il y a entre son langage et finalement ce que ces gens font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se marient pas. C'est pas un péché de pas se marier. Et puis, ils s'abstiennent de certains aliments. C'est pas un péché d'être végétarien. Pas du tout. Où est le problème? Le problème se trouve au début de la phrase. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir de certains aliments. Ces hypocrites, voyez-vous, ils cherchent à imposer aux chrétiens des choses que Dieu lui-même n'impose pas. Jésus lui-même a dénoncé ce genre de légalisme lorsqu'il s'est adressé aux pharisiens dans l'évangile. Et il cite Ésaïe et il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur reste éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. » Ou encore ailleurs, Jésus dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez, tenez-vous bien, vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » C'est Jésus qui a dit ça. Peut-être pas le Jésus des dessins animés, mais c'est le Jésus de la Bible. Au sujet de la religiosité, au sujet de l'hypocrisie religieuse. Vous savez, lorsque notre cœur est éloigné de Dieu, ce genre de légalisme devient une réelle tentation. Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience, moi j'en ai fait l'expérience. Lorsque mon cœur est éloigné de Dieu, le légalisme devient une vraie tentation. Il est plus facile de se plier à une discipline religieuse inventée par les hommes que de confesser sans réserve ses péchés à Dieu. C'est pas vrai? Il est plus facile de se plier à ce genre de discipline plutôt que de dire à Dieu « Seigneur, je mérite les tourments de l'enfer. Je reconnais mes nombreux péchés et j'abandonne ma vie entre tes mains pour que tu me pardonnes grâce à Jésus et ce qu'il a fait pour moi. » Vous voyez, il est plus difficile de faire ça que de croire le discours du diable. Et le discours du diable, il ressemblerait peut-être à cela. La convoitise sexuelle qui règne dans ton cœur, c'est pas si grave. Ce qui importe, c'est que tu milites pour qu'à l'église, on n'ait ni guitare électrique, ni percussion, et pour que le pasteur vienne toujours en cravate, et aussi pour que la seule traduction de la Bible qui soit autorisée, ce soit la nouvelle version second révisée de 1978. Pour Paul et pour toute la Bible d'ailleurs, ce genre de légalisme est grave, parce qu'en fin de compte, il tend à nous faire abandonner la foi. Il tend à nous faire abandonner la foi parce qu'il nous, nous détourne de notre besoin d'être pardonné et sauvé. Et il porte directement atteinte à l'évangile, ce discours du diable, ce légalisme, parce qu'il entretient un lien illusoire entre la faveur de Dieu d'une part et l'obéissance à des prescriptions purement humaines. Dieu m'est favorable si je fais ça. Si je fais ça, Dieu m'est favorable. Et ce lien est faux et illusoire. Mais en entretenant ce lien, par ses mensonges, le diable porte atteinte, vous voyez, au cœur même de l'évangile, au pardon que Jésus a acquis pour nous. Mais Paul va dénoncer ensuite, dans un troisième temps, quelque chose de plus précis encore. C'est notre troisième partie. Paul, donc, dans un premier temps, nous a mis en garde contre la tactique du diable, qui consiste à nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, le père du mensonge. Deuxièmement, il a développé son propos en montrant que ces mensonges consistaient notamment à nous faire croire qu'on pouvait cacher à Dieu notre cicatrice spirituelle par une simple discipline religieuse. Et cette discipline, Paul la qualifie d'hypocrisie. Mais maintenant, troisièmement, Paul va encore développer son propos en réfutant précisément un exemple de ce genre de discipline religieuse inventée par les hommes, à savoir l'ascétisme, l'apostrophe, A-S-C-E, accent aigu, T-I-S-M-E. L'ascétisme. Paul ne parle pas ici de l'ascétisme en tant que pratique volontaire, d'accord ? Comme le gars qui voudrait passer 2 semaines dans une forêt pour se consacrer au jeûne et à la prière et à l'étude de la Bible. Ça, c'est de l'ascétisme, mais c'est volontaire. Quelqu'un décide de le faire librement. Ce n'est pas de cela dont parle Paul, d'accord ? Paul est en train de parler ici d'un ascétisme, de l'ascétisme en tant que prescription, quelque chose qui soit prescrit, obligatoire pour les hommes, d'accord ? Un système religieux, une loi religieuse imposée aux hommes. C'est de ce genre d'ascétisme-là dont parle Paul ici. Rappelez-vous qu'à cette époque, et j'en ai déjà parlé dans les messages précédents, à cette époque-là où Paul écrit à Timothée, il y a des gens dans l'Église qui disaient que le monde spirituel, siège de Dieu et du bien et de la vérité, le monde spirituel est totalement distinct du monde matériel, siège du mal et de l'illusion. D'accord ? Il voit cette séparation radicale entre le céleste, le bien, la vérité, et puis le terrestre, le matériel, le mal, la mort et tout ce qui suit. Tout ce qui s'ensuit. Donc un bon chrétien, à cette époque, vous comprenez, pour ces gens-là, un bon chrétien, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui va faire tous les efforts possibles pour s'extraire, se séparer du monde matériel, en vue de contempler ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est bien, le monde spirituel ou céleste. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui va prendre résolument ses distances avec tout ce qui est terrestre et matériel, pour ces gens-là, mais pas pour Paul. Et pas pour toute la Bible en tout cas. Paul donne 2 exemples de prescriptions mises en avant par ces gens. Et les 2 exemples, vous les avez notés peut-être au moment de la lecture, ces 2 exemples, c'est d'une part le célibat, ils prescrivent de ne pas se marier, et puis d'autre part c'est l'abstinence de certains aliments. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, etc., etc. Nous, on aurait peut-être tendance à dire, enfin moi en tout cas, j'aurais plutôt tendance à dire, et alors ? Est-ce que c'est si grave que ça, ce qui se passe là dans l'église de Timothée, que des gens qui disent qu'il ne faut pas se marier, c'est pas si grave que ça. Qu'est-ce qui justifie le langage de Paul ? Doctrine de démons, esprit séducteur, faux discoureur, etc., etc. Qu'est-ce qui le justifie ? Eh bien, regardons de quelle façon Paul va réfuter ce légalisme ascétique. Il se réfère au récit de la création, qu'on retrouve tout au début de la Bible, dans le livre de la Genèse. Et dans ce récit, on apprend que Dieu n'a pas seulement créé le ciel, mais c'est bien Dieu qui a créé la terre et tout ce qui s'y trouve. Et quand il a fini son travail, Dieu a déclaré que tout cela est bon, était bon. Genèse chapitre 1, verset 31. Et voyez ce que Paul dit au verset 4. Tout ce que Dieu a créé est bon. Pas juste le ciel et les choses spirituelles, même les choses terrestres et matérielles. Tout ce que Dieu a créé est bon. On voit que pour Paul, le fait de dire que le matériel est mauvais au profit des choses spirituelles, le fait de dire cela équivaut pour Paul à limiter la portée de ce que Jésus est venu accomplir. Et c'est là que c'est grave. Parce que Jésus n'est pas venu pour simplement proposer une échappatoire au monde matériel, mais Jésus est venu sauver le monde matériel. Voici comment Paul résume le plan que Dieu a voulu réaliser à travers Jésus. On trouve cette expression dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Et puis je vous signale entre parenthèses que les Éphésiens, enfin l'église d'Éphèse, c'est l'église dont Timothée est le pasteur. Donc quelque part, c'est les mêmes destinataires là. Voici comment Paul résume le plan que Dieu a voulu réaliser par Jésus. D'accord ? Écoutez bien. Son plan ? Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Voilà le plan de Dieu que Dieu a voulu réaliser par Jésus-Christ. Réunir sous un seul chef, c'est-à-dire sous l'autorité de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tout ce qui est dans les cieux, ok, mais aussi ce qui est sur la terre. Le céleste, le terrestre, le spirituel, le matériel. Dans l'Épître aux Romains, Paul dit, je cite, « Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. » C'est clair, non ? Il n'y a pas de distinction radicale, de séparation radicale entre le terrestre et le céleste dans l'esprit de Paul, ni dans la Bible. Pour Paul, donc, ce genre de légalisme ascétique, d'accord, qui pousse les gens à s'extraire du monde, à se séparer, à prendre cette distance avec tout ce qui est terrestre et matériel, ce genre de légalisme ascétique porte non seulement atteinte au message de l'Évangile, comme on l'a vu tout à l'heure, mais il porte aussi atteinte à la portée de l'Évangile. À la portée de l'Évangile, à l'étendue de ce que Jésus est venu accomplir. Donc pour Paul, c'est grave, et pour nous aussi, ça devrait être grave. Parfois, on pense à la foi chrétienne en termes d'opération de sauvetage. La désobéissance de l'homme vis-à-vis de Dieu a entraîné le monde entier dans une situation catastrophique, la terre est devenue un territoire ennemi de Dieu, et depuis son quartier général céleste, Dieu envoie Jésus en hélicoptère pour nous jeter une échelle, d'accord, pour nous extraire de ce monde avant de le réduire à néant. C'est pas comme ça des fois qu'on pense à l'espérance chrétienne. Enfin, moi ça m'est arrivé d'y penser comme ça, en tout cas en ces termes-là. En réalité, ce n'est pas exactement comme ça que la Bible présente les choses. La terre est effectivement devenue un territoire hostile à Dieu, cela à cause de la désobéissance de l'homme, à cause de son désir d'indépendance et d'autonomie vis-à-vis de Dieu, d'accord ? Mais la terre n'a pas cessé pour autant d'être la propriété de Dieu, son créateur. La terre n'a pas cessé pour autant d'appartenir à Dieu. Jésus est venu habiter parmi les hommes comme en territoire occupé par l'ennemi. Mais le but de Jésus n'est pas de nous extraire du monde. Le but de Jésus en venant habiter parmi nous, c'était de vaincre l'ennemi. C'était de vaincre l'occupant. Et il a réussi. Il a triomphé du mal et de la mort à travers sa mort et sa résurrection. Il est monté auprès du Père. Il est monté au ciel, comme on dit. Mais quand on dit qu'il est monté au ciel, ça veut pas dire qu'il est monté dans un endroit séparé du monde. Ça veut dire qu'il est monté à l'endroit le plus élevé du monde, le plus élevé de la création. Il siège depuis le ciel au-dessus de toute la création, ciel et terre compris. Autrement dit, ce que Jésus a accompli, ce n'est pas une opération de sauvetage, c'est une opération de reconquête. De reconquête. Tout ce que le diable peut faire aujourd'hui, c'est d'aboyer depuis la cage où il a été placé. En essayant de nous faire croire qu'il est toujours en position de force dans un territoire dont il était le prince autrefois, mais dont le Seigneur triomphant et l'héritier pour toujours est Jésus-Christ. Par conséquent, Paul dit dans ce passage que rien n'est à rejeter ici-bas. Rien n'est à rejeter ici-bas, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'il faut prendre ces choses, apprécier profiter de ces choses matérielles, ces choses ici-bas, avec reconnaissance, en attribuant à Dieu l'origine de tout ce qui est bon sur terre. Il y a quelques liens avec l'étude sur l'Ecclésiaste, hein, pour ceux qui viennent le jeudi soir. En disant que tout est sanctifié par la parole de Dieu, Paul est en train de dire ici que pour celui qui comprend quelle est la véritable portée de l'Évangile, pour celui qui comprend que Jésus n'est pas seulement venu extraire les croyants du monde, mais il est venu reconquérir le monde, pour cela, rien de ce qui est matériel n'est mauvais en soi, car Jésus en est le maître et le propriétaire. C'est pour cette raison que les chrétiens prient avant les repas, par exemple. Pourquoi on prie avant le repas? C'est une superstition? Non, pas du tout. C'est pour reconnaître que Jésus est le maître de ce qu'il y a dans l'assiette. Et c'est pour lui exprimer notre reconnaissance pour ces bonnes choses qu'il nous donne. On parle, n'est-ce pas, de bénir le repas. De même avec le mariage, la célébration religieuse qu'on organise à l'occasion d'un mariage, cette célébration a pour but de célébrer la seigneurie de Jésus dans ce nouveau foyer qui s'est formé, et de lui exprimer notre reconnaissance pour le don de l'amour et de la sexualité qui se vivent dans le cadre du mariage. Et on parle effectivement de bénir une union, n'est-ce pas? Une dernière application avant de conclure. À moins que vous mouriez ce soir, cette semaine, vous allez tous être confrontés, moi aussi, d'une façon ou d'une autre, au monde matériel, parce que c'est le monde dans lequel on vit, n'est-ce pas? Je voudrais que nous développions l'habitude de considérer toute cette réalité matérielle à laquelle on est confronté, dans laquelle on évolue. J'aimerais qu'on développe l'habitude de considérer toute cette réalité matérielle comme appartenant à Jésus, comme appartenant à Jésus, votre entreprise, votre fac appartient à Jésus, votre maison appartient à Jésus, votre voiture, votre frigo, vos vêtements appartiennent à Jésus. Dieu a remis toutes choses à Jésus, nous dit l'Écriture, dans l'Épître aux Hébreux, même si l'autorité bienveillante que Jésus compte déployer dans le monde ne soit pas encore pleinement visible. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le reconnaît, il dit « Nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises. » Et pourtant, c'est la réalité. Toutes choses ont été soumises à Jésus. Et si vous appartenez à Jésus, Jésus vous fait participer à son règne et à son héritage à lui. Il n'y a pas de plus grande liberté ni de plus grande richesse que celle d'être un chrétien. Parce que Jésus, si nous avons confiance en lui, si nous avons placé notre foi en lui, Jésus nous fait participer à tout ce qui lui appartient à lui. Et qu'est-ce qui lui appartient, si vous avez bien suivi? La création tout entière, ciel et terre compris. Calvin, encore une fois, pardonnez-moi, mais décidément Jean Calvin arrive à dire les choses d'une bien meilleure façon que moi. Voici ce qu'il dit. Il faut que Dieu soit par nous reconnu Père. Il faut qu'il soit reconnu Père par nous, mais sans d'autres mots, n'est-ce pas? Pour que nous soyons ses héritiers. Et il faut que Christ soit reconnu par nous chef, c'est-à-dire celui qui a autorité, pour que les choses qui sont à lui soient faites nôtres. Vous voyez? Par la foi en Jésus, ce qui appartient à Jésus est à nous. L'héritage que Dieu a réservé à son Fils Jésus-Christ, c'est aussi le nôtre. Incroyable. Donc la prochaine fois, par exemple, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais je vais le dire quand même. La prochaine fois que vous parlez à un musulman au sujet des interdits alimentaires, ben vous pourrez lui dire, si c'est votre ami, hein, vous pourrez lui dire, écoute, toi, tu ne dois pas manger de porc parce que ton Dieu a dit dans le Coran que c'était une souillure. Mais moi, je suis chrétien et je peux manger du porc parce que mon Seigneur a vaincu le monde et il me fait participer à son héritage. Ce n'est pas la même perspective, hein. Alors pour conclure, et vous me pardonnerez d'avoir été un peu long ce soir, mais pour conclure, Paul a voulu augmenter notre vigilance vis-à-vis des doctrines et des philosophies, notamment religieuses, qui circulent aujourd'hui. Dieu veut que nous sachions reconnaître les tactiques de notre adversaire. Et on l'a dit, ces tactiques consistent d'une part à nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, d'autre part à nous faire croire notamment qu'on pouvait cacher à Dieu notre cicatrice spirituelle par une simple discipline religieuse, et troisièmement, sa tactique consiste à nous faire croire que son territoire n'a pas vraiment été conquis par Jésus. Ces mensonges portent atteinte au cœur même de la foi chrétienne, à savoir au message et à la portée de l'évangile. Et j'espère que vous comprenez pourquoi. C'est pourquoi Paul les dénonce, ces choses-là, ces mensonges, en utilisant des termes si forts. Et c'est pourquoi il dit qu'en souscrivant à ces mensonges, certains ont, du coup, abandonné la foi, parce qu'ils ont abandonné des choses qui touchent au cœur même de la foi chrétienne, du message et de la portée de l'évangile. Alors qu'est-ce que c'est ? Je reviens à ma question de départ. Qu'est-ce que c'est qui aurait, plus que toute autre chose, le potentiel de vous faire abandonner la foi ? Bien, vous savez, bien plus que la menace physique, ce sont en réalité les mensonges du diable qui ont le plus de potentiel de vous faire abandonner la foi. Et pour terminer, une question un peu plus générale et personnelle, peut-être intime même, et je vous invite à y répondre dans le secret de votre cœur. Quelle est votre relation personnelle à Jésus, le maître bienveillant du monde entier, celui qui est venu dans le monde, qui est mort et ressuscité pour que tous ceux qui croient en lui reçoivent le pardon de leurs péchés et participent à son glorieux héritage dans l'éternité. Quelle est votre relation personnelle à ce maître bienveillant qui a conquis le monde ? Pour citer Paul, Dieu a souverainement élevé Jésus et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.